Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau magazine de la moto proposé par Kikinkout et Toupal de 11h à 12h30 sur Campus Lille 106,6 ou www.campuslille.com. Au programme de ce magazine aujourd'hui, au 1er janvier 2017, la norme Euro 4 entrera en vigueur. Elle fixe de nouveaux seuils d'émissions polluantes pour les motos. Les constructeurs prévenus depuis longtemps n'ont d'autre choix que de s'adapter leur machine à la norme ou de renoncer à leur commercialisation sur le territoire de l'Union européenne. Pour savoir comment s'adaptent les constructeurs, nous nous sommes intéressés à une marque mythique, plus que centenaire puisqu'elle a fêté ses 110 ans en 2012, Triumph. Un nom magique dans le monde de la moto, un nom de légende mais qui a pourtant bien failli disparaître en 1983. Pour en parler avec nous, nous avons notre invité Alexandre, de la concession Triumph. Alexandre, bonjour.
Bonjour tout le monde, bonjour les auditeurs. Bonjour.
Alexandre, je voudrais d'abord que tu donnes un peu de tes nouvelles aux gens qui te connaissent et qui nous écoutent. Hein, parce qu'il t'est arrivé une petite bricole, on va dire une petite bricole, ça pourrait être pire quand même, vendredi soir.
Ouais, tout à fait. Bah, tout d'abord, merci à Kikinkout et Toupal, merci Luc, merci la Miche, merci Radio Campus pour l'invitation. Je suis ravi d'être là. Oui, petite bricole, si on peut dire, sur le périph' de Lille, une automobile qui a passé quatre voies d'un coup sans prévenir personne, qui a tamponné une autre voiture et moi qui étais en moto et mon ami Junior qui était également en moto. Tout va bien, on est sorti de l'hôpital, pas de bleu, pas de contusion. Junior a deux, trois petits bobos par-ci par-là, mais tout va bien. Et dès mercredi, maintenant 9h, on sera présent à la concession en pleine forme.
Alors encore une fois à cause d'automobilistes.
Voilà. Ouais. Bon, si on peut le dire. Ouais. J'aime pas, mais ouais, effectivement.
Voilà. Très bien. Donc on va parler un peu de cette fameuse norme Euro 4 hein, qui va faire supprimer pas mal de modèles dans toutes les marques d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas que chez Triumph. Hein. Donc on va revenir un petit peu sur tout ce qui va se passer en 2017, donc au niveau de la marque. Et aussi les nouveaux modèles. Et comment font aussi les marques pour s'adapter, en fait, les solutions technologiques pour passer ces normes. Parce que le pire, c'est qu'en 2020, c'est Euro 5.
Ouais, tout à fait.
Et là, on le commande en 2020, en électrique.
Bah, ouais, y a
parce
déjà
que là, déjà, là, on sent bien que les moteurs sont un petit peu, comment dire, étouffés. Hein. On sent qu'à force de vouloir brider les émissions polluantes, on bride les moteurs de plus en plus.
Ouais, tout à fait. Ben, on avait déjà un peu connu ça entre le carbu et l'injection. Ça faisait aussi partie
des normes. C'était la première étape. C'est ouais, vraiment ouais, carbu. Forcément, carbu, ça passait plus du tout. Il a fallu passer à l'injection.
Les marques ont fait avec. On a une bonne ville qui roule en injection depuis maintenant quelques années. Effectivement, norme Euro 4, bientôt 5, bientôt 6. Enfin, ça continue. Hein. Faut pas se leurrer. Et effectivement, les constructeurs doivent regorger d'imagination. Si je puis dire, d'inspiration pour que les motos puissent continuer à rouler et qu'on puisse continuer à vivre de notre passion.
Il faut trouver des idées pour effectivement essayer de passer toutes ces normes et ça va devenir de plus en plus compliqué. Tiens, nous avons un propriétaire de légende avec nous, donc il est passé dans le coin là, juste en face des studios. Luc, bonjour.
Donc, j'ai vu des triomphes. Donc,
il a vu des triomphes. Tiens, il s'est dit qu'il s'est arrêté. Voilà. Donc ben, Luc, ben, c'est bien parce qu'il a acheté il y a pas longtemps le tout nouveau modèle hein, qui passe à cette fameuse norme donc Euro 4, hein, le T100, T120,
hein,
1200 cm3. Hein.
Donc comme la première bonne ville du monde. En 59, le T120.
Voilà, ouais, T120. Là. Alors, on va lui demander si le ramage correspond bien au plumage, ce qu'il pensait de cette machine. Hein,
le refroidissement liquide ne va pas dénaturer la nature du moteur, mais
oui,
pas
oui,
du
non.
Tout.
Bah, écoute, là, tu nous en parleras. Voilà, l'autre invité de cette émission, bah, c'est Stéphane Paulus, un pilote moto presque comme les autres. Stéphane Paulus a perdu les âges de ses jambes en 2003 dans un accident de moto 7 ans plus tard. Le temps de se reconstruire, Stéphane est remonté en selle. Au mois de juin, il a pris le départ du premier championnat de France handisport de moto qu'il a lui-même co-organisé. Stéphane, bonjour.
Bonjour à tous, bonjour à l'équipe de voilà. Kikinkout et Toupal. heureux d'être parmi vous aujourd'hui, puis bah de vous parler de ça.
Alors déjà, chapeau quand même, du courage un peu d'être remonté sur une moto d'abord et puis après de repartir en compétition quand même. Hein.
Merci. Je pense que quand on a une passion et malgré l'handicap et certaines épreuves que la vie qu'on peut affronter dans la vie, il est important de rebondir et de continuer. Donc moi j'ai un petit dicton, c'est voilà, il y avait le choix entre adapter sa vie à l'handicap ou adapter l'handicap à sa vie. Bah, j'ai choisi.
T'as choisi le.
Voilà, j'ai adapté l'handicap à ma vie. D'accord. Et j'ai pas changé pour autant. Donc voilà.
Donc c'est pas facile hein, ce que t'aimes bien c'est la vitesse en fait. fait. Hein. C'est le circuit. Et alors, tu vas nous raconter que, au départ, tu t'es inscrit dans des compétitions de tout le monde, de tous les pilotes, quoi.
Tout à fait. En fait, j'avais pas fait de circuit avant mon accident. Hein. Je roulais très très vite sur route. J'en ai payé le prix cher. J'ai repris la moto sur route avec mon handicap. Hein. J'avais adapté ma moto pour rouler sur la route, mais j'étais toujours pas raisonné et raisonnable. Et en fonction de toutes les la répression drastique qu'il y a aujourd'hui, j'ai préféré arrêter de prendre des risques. C'est là que je me suis mis au circuit en 2011.
Très bien, écoute, on verra ça en deuxième partie d'émission. L'actu du mois de novembre avec l'événement majeur dans la région, c'est le Supercross de Lille, l'épreuve indoor la plus spectaculaire d'Europe qui va se dérouler les 12 et 13 novembre prochains. Avec nous, pour en parler, Guy Pilarczyk. Guy, bonjour.
Oui. Bonjour la biche, bonjour tout le monde. Oui, les jours approchent, c'est le 12 et le 13 novembre. Et comme d'habitude, on va faire une surprise aux auditeurs.
On a des cadeaux à offrir, des beaux cadeaux cette fois-ci. Là,
et c'est des entrées, ouais. Des entrées pour le Supercross. Il y aura d'une valeur de quand même, de, on peut dire le prix. Hein.
Oui, vas-y, dis le prix.
Alors c'est 70,50 €.
La place,
50,
on va offrir. Non, j'en prends une alors tout de
suite. Non, il faudra répondre à une question. Hein, qui...
Ah, il faudra répondre à des questions.
C'est un jeu.
Je suis pas spécialiste en motocross, alors plutôt en vitesse, mais...
Parce qu'avant c'était facile, hein, les auditeurs, le premier qui téléphonait, il gagnait, ouais. Mais là... Bon,
non, il va falloir répondre à des questions, donc accrochez-vous. Hein, donc, déjà, je vais vous donner le numéro de téléphone de la station, c'est le 0 80 91 24 00. Vous le mettez en mémoire, parce que je pense qu'il y a des entrée à 70 €,
ça va se bousculer.
Donc ce sera d'ici une demi-heure à peu près, 35 minutes. Je peux pas résister à dire que je suis heureux parce qu'il y a un champion du monde encore une fois en moto, comme il y en a un moto en motocross, hein. Mais là en moto 2, hein, Johan Zarco était titré donc en Malaisie aujourd'hui ce matin, matin pour nous, mais là-bas en Malaisie il était 14 h, donc il est un Français encore deuxième année consécutive, Stéphane.
Ah non, bravo, bravo.
Je l'aime bien ce pilote, Zarco.
Ah, Zarco,
qu'il est zen ce mec, il est cool.
Il a fait une très belle saison, elle a démarré un petit peu difficilement, mais il a fini.
Il y a du mal, la semaine dernière, il y a eu des problèmes, et de pneus en fait, c'est le problème.
Mais, il y a la pression aussi pendant un moment.
Il est très posé, il a un travail de fond important, et c'est ce qui lui a permis de réaliser cette belle performance cette année. Hein.
Il reste une manche à Valence, mais c'est fini, il est sûr que les champions...
Le championnat est plié en MotoGP.
Je peux pas résister non plus de dire que... Alors là, c'est quand même incroyable, parce que tu suis apparemment aussi le MotoGP, la course, que Marquez a chuté une deuxième fois. Et si Rossi n'avait pas fait sa bêtise il y a 3 semaines, ce serait Rossi qui serait éventuellement champion du monde. C'est incroyable, incroyable.
Voilà. C'est fait d'éventualité, les faits de course.
Faits de course qu'on appelle ça. Hein. Voilà,
tout à fait.
Et surtout 9 vainqueurs différents sur la saison.
Et 9 vainqueurs, alors Dovizioso, hein, qui a gagné le Grand Prix, suivi de Rossi et Lorenzo. Mais non, hein, il y a eu des problèmes de pluie.
Les conditions étaient pas terribles. C'est dommage pour Yannone.
Tu dois savoir un peu.
C'était impressionnant, mais c'est dommage pour Iannone qui revenait, qui a peut-être forcé un petit peu trop parce qu'il jouait aussi le podium, mais c'est bien pour Dovizioso.
Voilà. Et pour terminer ce sommaire, très vite, l'invité de toutes les émissions, la musique avec Laurent Rodier.
Oh, c'est gentil.
Spécial moto de légende, aujourd'hui on parle de cette marque Triumph. Alors, je n'osais pas le dire parce qu'elle est plus vieille qu'encore que...
Tu parlais
c'est une marque anglaise. Hein. Ouais. On sait qu'en Angleterre...
plus vieille marque de moto du monde.
Voilà. C'est... Bon, je vais pas dire parce que je vais peut-être fâcher quelques personnes.
Non, parce qu'on est fiers. Les triomphistes, d'où qu'on soit, on est tous fiers d'avoir cette étiquette de plus vieille moto du monde.
112 ans. Remarque, bon, il y a d'autres marques, hein, bah, surtout des marques américaines, hein, qui sont aussi...
Ouais, 1903, voilà. Mais avec des parenthèses plus longues ou des difficultés différentes. Mais... ouais, tout à fait.
Voilà. Donc, on parle un petit peu de ce qui se produit actuellement. Il y a deux motorisations, du bicylindre et du 3 cylindres, donc chez Triumph. Hein. Il y avait du 4 cylindres à l'époque, mais ça a disparu.
Tout à fait. Twin and Triple, le surnom de la marque. À l'heure d'aujourd'hui, on a toute une gamme classique, en l'occurrence la famille des Bonneville en bicylindre. Le bicylindre qui va être prolongé dans la gamme des cruisers. Donc, on va plutôt être sur des motos à allure, on va dire classique, ancienne, custom. Et puis, on a toute la génération contemporaine, moderne, les routières et les sportives, Street Triple, Speed Triple, Tiger et autres, où on va avoir un 3 cylindres. Voilà. Une famille coupée en deux avec chacune deux gammes différentes en fait.
Très bien. Donc on suppose que le caractère moteur entre un 3 cylindres et un bicylindre, c'est pas pareil.
Non, effectivement, ça n'a rien à voir. Effectivement, on a du caractère sur du bicylindre. Même si nos ingénieurs, comment font-ils pour retrouver cette souplesse, ce couple, cette linéarité qu'on va avoir également dans le 3 cylindres. Le 3 cylindres qui va être, lui, beaucoup plus confortable. D'où les Tiger, les Trophy sur ces machines-là. C'est extrêmement loué. Et un moteur qui est également très caractériel, avec beaucoup d'énergie, perpétuel, sur toutes les plages, que ce soit sur les streets, les speeds. Je pense que tous les amateurs, les journalistes, si on anime, hein, c'est pas le vendeur qui parle, hein, c'est le passionné là aujourd'hui.
Donc il y a aussi du super sport, donc équipé donc de ce moteur 3 cylindres.
Effectivement, une gamme donc dans la famille, on a d'abord la gamme des sportives, on va dire, avec le Street 675, le Speed 1050 et donc la Daytona qui est un peu particulière, c'est l'hyper sport et on n'a qu'une chez Triumph. Ensuite, il y a la gamme des Tiger, toujours en 3 cylindres, qui est composée des Tiger 800, donc une machine un peu plus trail ou routière. Il y a deux versions, deux variantes. Après, on a le 1200. Il y a une parenthèse avec le Tiger 1050 qui, en fait, prend le confort du Tiger, mais le moteur du Speed Triple. Bon, je synthétise un peu, hein, c'est un peu simple, mais c'est un peu ça. Et puis la Trophy qui est la belle grosse routière. La famille des bicylindres va être composée de la famille des Bonneville, hein, qu'on connaît, T100, T120, Truxton, Street Cup aujourd'hui. Et puis les cruisers, donc c'est les oiseaux de feu, les Thunderbird et les Rockettes.
Très bien, en fait, le Triumph joue un petit peu sur la nostalgie. Hein, enfin, on regarde les noms, Daytona, tout ça, Bonneville, on reprend des noms magiques.
Bah, la marque, le constructeur, et Nick Bloor et John, son père, celui qui a repris la firme dans les années 90, s'appuie sur son passé. Et on a un passé tellement énorme chez Triumph, les records, les stars, le cinéma, etc. Donc s'appuie sur ça et il s'en inspire et il réinvestit. Et effectivement, aujourd'hui, Triumph qui sort une nouvelle Bonneville T120, c'est comme si les Rolling Stones sortaient un nouveau disque ou refaisaient une tournée. C'est un peu la même idée, quoi.
D'accord. Bon, alors en 2017, qu'est-ce qui va se passer pour Triumph ?
Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On va continuer, le constructeur continue à investir son passé. Donc là, on a vécu, si je rappelle rapidement, donc, la Bonneville avec les nouvelles normes, puisque c'était la question initiale. Donc il faut reformater, retravailler le moteur de l'ancienne T100, la génération précédente. La Bonneville T120 a été dévoilée en octobre l'année dernière. Elle est arrivée en mars en concession. C'est enchaîné un peu dans le désordre le Street Twin, donc le petit bicylindre, la petite Bonneville entre guillemets, la Truxton et la Truxton Air, hein, qui a été d'ailleurs élue meilleure moto européenne, ce qui est la deuxième fois consécutive pour un constructeur, puisque l'année dernière c'était notre Explorer, le Tiger 12, hein, qui avait été la meilleure moto européenne, donc chapeau quand même. Le Speed Triple dans les 3 cylindres, nouvelle version, est arrivé en full avec ABS, électronique et pour correspondre aux nouvelles marques. Le Tiger Sport qui a la base moteur similaire dans la foulée et l'Explorer 1200. Là, ce qui va bientôt arriver, ou ce qui arrive là en concession à l'heure où je vous parle, c'est encore dans la famille Bonneville la T100, donc la petite Bonneville également.
Avec le moteur du 900 Street Twin.
Exactement. Donc en fait, le moteur, la base moteur du Street Twin va servir à deux autres motos, la Tessan, donc qui a l'allure typiquement années 60 avec les peaux saucisson, le chrome, etc. Un équipement un petit peu plus léger que la Bonneville T120, avec certains accessoires qu'on ne retrouvera pas. Donc elle fait la jonction entre la Street Twin, qui est l'entrée de gamme, et la T120, qui est déjà une belle, belle machine bien équipée. Et puis le Street Cup, qui n'est ni plus ni moins que la base moteur du Street Twin, avec un look de café racer un peu à la Truxton. Ouais, tout à fait.
Là, le constructeur... c'est une bonne idée d'avoir pris le moteur de la 900 Street Twin, qui a un moteur vraiment sympa, ouais, et de le mettre dans une partie stick de classique, finalement, puisque c'est tout à fait la philosophie qui correspond bien à ce type de moteur, qui est vraiment réjouissant, quoi. Le calage à 270 degrés lui donne du caractère, et ça permet d'éprouver du plaisir sans forcément rouler trop vite, et donc d'éviter de faire des bêtises sur la route.
Je vous propose de faire une pause, Alexandre. On fait une pause musicale, et après, on parlera un petit peu, ben, parce que toutes les motos seront équipées d'ABS, hein, en 2017. C'est obligatoire. La norme il y a le CBS aussi. Il y a donc aussi le système pour de rejet d'émissions. Donc tout ça, ça a un prix. Et forcément, qui c'est qui va le payer? C'est l'acheteur. Hein, c'est celui qui vient acheter. Voilà. Donc on va reparler de ça, et puis on fera un petit essai avec Locke, qui a déjà fait pas mal de bornes déjà avec sa moto d'ailleurs.
Ouais, je suis à 6000 km.
6000 déjà, c'est pas mal quand même.
En 3 mois, ça va.
Ah, en 3 mois, attends.
C'est pas beaucoup.
Il y en a qui vont au bout de 10 ans, ils sont pas. Voilà. Allez, musique. We'll be right back. 110 ans, c'est l'âge de cette marque de légende Triomphe, avec Alexandre aujourd'hui.
Bonjour.
Rebonjour Alexandre. Bonjour. Voilà, donc on va parler un petit peu donc de 2017. Donc effectivement, on en parlait avant, le morceau de musique, l'ABS, CBS, émission donc réduite, émission polluante. Donc comment tout ça, c'est un prix, c'est une technologie, et forcément ça va impacter sur le prix des machines.
Alors ouais, non, quand vous regardez un peu, bah, effectivement ça impacte, parce que aujourd'hui, donc, avec la nouvelle norme, non seulement il y a des normes anti-pollution, mais ce qui apporte également cette norme qui n'avait pas avant, c'était également des normes de consommation de machines. Ça, on n'en parle pas souvent. Les machines doivent consommer moins. Et également des normes de sécurité. Et comme tu l'as très bien dit, l'ABS à aujourd'hui est obligatoire pour que la machine soit vendue par un concessionnaire.
Toutes les machines au-dessus de 125 cm3 doivent être équipées d'ABS.
Et quel que soit le constructeur, voilà, ça c'est une norme. Voilà. Donc effectivement, bah, Triomphe saisit l'opportunité de cette norme, parce que sincèrement, c'est ça. Pour plus que rafraîchir un modèle mythique, parce que la Bonneville, c'est la moto qui est mythique par excellence chez nous, et c'est la première qui est ressortie là cette année, qui a été reformée, reformatée, et donc ben, l'opportunité de redessiner la moto, de la retravailler, un nouveau cadre, un nouveau moteur, tu l'as très bien dit là tout à l'heure, avec le calage, etc., le 1200, le 900, et en même temps, ben, on va y ajouter l'ABS, l'antipatinage, c'est une obligation, les motos consomment moins, on a combien sur nos motos, 4-5, 5-5 maintenant à peu près.
4,5 moi sur les
400. 4,5, donc c'est énorme.
Bon, Luc ne ment pas. Hein.
Ah non, non, mais. Il y a...
C'est pas parce que tu.
Ah bah non, mais je te. Ouais. Regarde les essais, tu verras. Tu verras. Tout le monde le dit,
Non, tout à fait. Donc ça, c'est nous, rouleurs de motos, qui aimons bien faire des kilomètres. Enfin, c'est quand même magnifique de pouvoir faire un plein pas très cher et d'enchaîner 300 km avant la prochaine pompe. Ça, c'est quand même tip top. Donc c'est vraiment une opportunité. Et là, sur le coup, nos ingénieurs ont apporté un gros, gros travail. Alors on l'a dit, ben, le calage du moteur, le refroidissement liquide. Et également, on en a parlé, ça rentrait dans les détails, l'ABS, tout ça, ça a été ajouté. Alors le coût des machines, bah ouais et non, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand vous regardez un petit peu la gamme, eh bien vous avez une T100 nouvelle génération, donc avec l'ABS, calage, etc., au même prix, à peu de choses près, allez, ça se joue à 500 € que la T100 dernière génération, celle qui avait encore au mois de décembre dans les concessions. Oui, la T120 est un tout petit peu plus chère, comme tu l'as dit, mais Luc, qu'est-ce qu'elle a comme accessoire, ta T120, à aujourd'hui ?
Ah bah, t'as une béquille centrale. Ouais. T'as la poignée passager, tu as aussi les poignées chauffantes, tu as le compteur de vitesse, enfin et le contour, je veux dire le contour, puisque le compteur de vitesse est obligatoire.
Non, c'est parce qu'il regarde jamais le tien,
en fait.
Sur la
béquille centrale, c'est quand même assez original, parce que maintenant, on trouve des machines avec...
Bah, d'origine, t'en plus, ouais. C'est une option, hein.
Bah oui, c'est une option.
Même la poignée passager, c'est une option aussi,
quand
maintenant.
Tu veux graisser ta chaîne, c'est quand même intéressant.
Bah ouais, tout à fait. Ouais. La garer, quand tu vas monter le corps, et puis voilà. Tu veux être sûr qu'elle soit bien droite,
ouais,
c'est tout bête.
Ouais.
Hein, mais
pas la mettre dans la sens... Il faut mettre... ou alors, tu mets la moto dans le sens de la pente.
Faire des
calculs d'angle.
Exactement.
Mais en plus de ces accessoires d'origine, en fait, c'est aussi la qualité de finition, quoi. Comme par exemple les faux carbus qui ressemblent à des Hamel où on a planqué dedans l'injection.
Faut avouer qu'ils ont fait fort quand même.
C'est vachement bien fait.
Avec les faux carbus.
En plus, Hamel quoi. Attention.
Alors, et puis le Triomphe dans le phare, ça c'est. Ils ont joué voilà, la carte du retour.
Et de la finition.
De la finition.
La finition, gros gros soin. Et effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, ben, dans les acheteurs de motos, on rencontre tout type de profils, des rouleurs, des pistards, des gens qui vont faire du trail. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on a quand même beaucoup, beaucoup de monde qui s'offre une moto, hein, une moto bijou qu'on va mettre dans le salon, qui va faire belle. On est content de rouler avec, on est content d'aller balader, on est content quand il y a du soleil, etc. Mais en même temps, on est aussi content de la montrer aux copains. Pour l'info, on a livré à Triomphe Lille deux motos en camion directement chez les propriétaires. Il y en a un qui a placé sa Bonneville dans un cabinet médical pour décoration. Et la deuxième, c'est un monsieur qui partait en retraite, qui était passionné de bande dessinée, et pareil, qui l'a mise dans son salon pour... voilà, donc la moto objet, un bel objet. On s'offre, on se fait plaisir, c'est un bijou, quoi. Effectivement.
Bon, pour terminer cette séquence, les modèles qui vont disparaître ou mis en stand-by.
Voilà, stand-by.
Ouais, parce qu'il y en a certains qui vont disparaître chez tous les constructeurs.
C'est normal, hein,
mais il y en a d'autres qui sont mis en stand-by et qui vont peut-être être
alors, ouais, tout à fait,
de retour plus dans un an ou deux ans, peut-être
pas. Effectivement, avant de répondre plus directement à ta question, quand on regarde un petit peu l'histoire du constructeur, on se rend compte que les noms sont récurrents, reviennent, sont mis en pause, reviennent. Alors on parle de Bonneville, mais on parle de Tiger. La Tiger, c'est la moto qui a battu le record sur le lac Salé dans les années 50, qui a donné naissance à Bonneville. La Speed Twin, on n'en entend plus parler depuis 1938, 48, mais en fait elle revient bientôt, parce que c'est ni plus ni moins à peu de choses près, que le bobber qui a été dévoilé par Triumph là, cette semaine, je ne sais pas si vous avez vu un peu les vidéos, etc., et qui arrive en concession fin mars, début avril. Vous mettez deux motos en parallèle, physiquement, c'est à peu de choses près, c'est impressionnant. Donc oui, effectivement, on va avoir des motos qui vont être mises en stand-by de par les normes, ne correspondant plus aux normes. Pour en citer quelques-unes, on a la Trophy, on a la Daytona, on a également les cruisers, et voilà, la Rocket. Mais par exemple, la Rocket existait déjà il y a plusieurs années, elle va être mise en stand-by, et je suis convaincu, je suis persuadé, encore une fois, vous reprenez un livre d'histoire, vous regardez un livre d'histoire de Triumph, les modèles sont là, puis ils disparaissent, puis ils reviennent. Donc ils disparaissent pas vraiment, en fait, c'est que nos ingénieurs vont nous faire quelque chose de sympa. Je suis convaincu que demain, on va avoir... on peut pas imaginer Triumph sans Rocket, c'est inimaginable, ou Triumph sans Daytona, enfin, vous voyez, c'est un record de vitesse aussi, Daytona. Donc demain, après-demain, ben, il faut laisser un peu le temps au constructeur de concevoir de nouvelles belles motos, et ça va pas tarder. On aura, j'en suis convaincu, une nouvelle Rocket, une nouvelle Dayto, ou en tout cas quelque chose du même acabit.
Talk about my baby. I wanna talk about my baby. When she holds me in her arms, she sets my soul on fire. Oh, and my baby kisses me. My heart just fills with desire. Almost drives me out of my mind. I got
Alexandre, on ne peut pas parler de Triomphe sans parler des origines de cette marque hein, qui a été lancée. Tout a commencé en fait en 1983. Et on pourrait croire que c'est un Anglais, parce que bah, Triomphe, ça sonne bien anglais et c'est anglais. Et ben non, en fait, c'était un jeune Allemand, Siegfried Bergmann, émigré en Angleterre. Il a essayé de faire fortune là-bas. Donc, voilà. Mais avant de partir sur l'historique un peu de cette marque aussi mythique, hein, je rappelle, 110 ans quand même, hein, c'est pas rien. Nous avons au téléphone Jean-Luc Guignard.
Oui, bonjour.
Bonjour Jean-Luc.
Oui.
Ça va bien. Je vais te présenter aux auditeurs quand même un petit rappel. Hein. Tu es collectionneur de motos anciennes. Hein. Je ne sais pas combien tu en as. Et même toi, je pense que tu ne sais plus non plus combien tu as de machines dans ton musée.
Non, je ne les ai jamais comptées. Tu sais, quand on aime, on compte pas.
Donc voilà. Donc je rappelle que ton musée, c'est à Montflour, en Mayenne.
Oui.
Il fait quel temps aujourd'hui à Mayenne?
Oh, il fait un beau soleil. Hein.
Ah bon, bah c'est comme ici, alors c'est bon.
Ben oui.
Très bien, Jean-Luc. Aujourd'hui, on parle de Triomphe. Hein. Moi, je sais, toi, tu es un peu plus axé sur Harley-Davidson ou Indian, hein. Mais tu possèdes aussi deux motos, une Triton de Ronan Slam et une Ricardo 4 soupapes des années 20.
Voilà, c'est ça. C'était une moto faite par Harry Ricardo. En fait, c'est une culasse à 4 soupapes qui était vraiment fait pour optimiser vraiment la combustion et le rendement du moteur. Et une machine qui atteignait à l'époque 120 km/h à peu près. Hein. C'était assez exceptionnel quoi, pour son époque.
Oui.
Et c'est une moto qui était en avance sur sa génération en fait. Et qui a été peu diffusé, bon déjà elle coûtait cher, je sais pas combien, peut-être 200 modèles ou quelque chose comme ça qui a pu être fait. Bon c'était quand même une moto rapide sur ses réservoirs entre tubes, très peu de suspension. Donc voilà, c'était une machine un peu qui avait le moteur plus, on va dire, plus adapté que la partie.
D'accord, et tu as participé à des démonstrations ou même des courses avec cette moto?
Oui, bah ça m'est arrivé. C'est surtout celle de Ronan Slam. J'ai fait mon Léry, à l'époque là, c'était moto légende à l'époque. Oui, c'était moto légende. Et donc j'avais tourné avec celle-là. Oui, c'est une belle moto aussi. Ça, c'est un Triton qui est de 61 et puis qui a appartenu à Ronan Slam à une époque. Hein. J'ai son livre de course, tout ça. Donc là, voilà, c'est deux générations différentes, mais c'est deux machines exceptionnelles, quoi.
Est-ce que tu connais un petit peu l'histoire des débuts de cette marque Triomphe?
Ben pas trop. Moi, ce que je sais surtout, c'est comme là, je travaille beaucoup sur la guerre 14, c'est qu'en 14, ben, il y en a eu énormément qui sont venus en France. C'était des motos officielles pour l'armée, la Trusty, là. C'était il y en a eu vraiment des milliers de faits, ce qui a donné aussi beaucoup de... qui a beaucoup aidé la marque Triomphe à prospérer, hein, comme Harley ou Indian. Hein, cette première guerre, là, automatiquement, c'était des quantités de véhicules qui ont été utilisés. Et d'ailleurs, les Trusty, on en retrouve encore beaucoup. Hein, c'est une machine assez courante dans les anciennes.
D'accord. Alors, c'est un peu comme Harley Davidson hein, qui met un moteur de Yeboton dans un cadre de vélo. À l'origine, la première Harley Davidson, c'est un moteur français en fait. Et là, c'est Bergmann hein, va mettre un moteur de Minerva de 2 chevaux. Donc, et c'était un moteur belge.
Un moteur belge.
En 1902. En 1902.
Ouais. Tout à fait. Bah, tout le monde s'inspirait un peu des précurseurs, quoi. Hein. Norton, ils ont démarré avec le premier moteur Peugeot. Hein. Ils ont. Donc, voilà, c'était. Fallait que toute l'histoire se fasse hein, petit à petit, hein, suivant le. On prenait les moteurs les plus évolués, on essayait de les copier, puis de monter des marques un peu à partir de ça, quoi.
Alors, je sais pas si t'es amateur de films aussi.
Oui, bien sûr.
Est-ce que tu connais l'équipée sauvage?
Ah oui.
Avec Marlon Brando, qui pilote une 650 cm3.
Mais oui, tout à fait, c'était rock'n'roll.
Ça se passait aux États-Unis d'après des faits qui étaient
Hollister
qui était le réalisateur en fait de ce film avait vu ça un petit article dans un journal et il s'est dit qu'on pourrait faire un film à partir de des événements.
Oui.
Voilà.
Ben oui. Non, puis ça reflétait aussi toute cette jeunesse américaine, tout ça. Oui, c'était. D'ailleurs, ces marques anglaises là qui sont arrivées aux États-Unis dans les années 50, beaucoup, qui inspiraient beaucoup la jeunesse, ont fait aussi beaucoup de tort aux marques américaines, surtout Indian, qui en a payé les frais puisqu'ils ont été obligés de fermer en 54, puisqu'ils n'avaient pas pu renouveler les marchés avec la police et l'armée, et en plus, ils avaient une jeunesse américaine qui commençait à délaisser les motos américaines pour aller vers les anglaises.
Oui. Et puis aussi en 1955, on parle de ce record de vitesse 310,54 km/h. Et c'est quoi, Jean-Luc?
C'est Johnny Allen.
Non, ouais, c'est Johnny Allen. Et c'est sur le lac de Bonneville.
Voilà, dans l'Utah.
Et donc le mythe est créé, Bonneville.
Oui.
Voilà.
Oui, tout à fait. D'accord.
Et voilà. Eh bien, écoute, on a parté quand même, là, Jean-Luc, depuis que tu as piloté Brad Pitt cet été, là, au mois d'août, on ne parle que de toi. Hein.
Ah oui. Bah, écoute, hein, ouais. C'est vrai que ça.
Très vite, raconte-nous l'histoire là, de Brad Pitt, comment ça s'est passé.
Il va faire un film chez lui.
Oui,
bah, disons que ça s'est passé bizarrement. C'est un régisseur qui s'occupe d'amener des stars en France pour des événements, qui fait de l'événementiel, qui m'a contacté, me connaissait, il avait visité le musée quelques mois auparavant, puis on avait sympathisé, et qui m'a proposé justement donc de ramener mes Brad Pitt à la maison pour passer un petit moment pour se détendre un peu de la foule et tout ça, quoi. Donc on lui a fait un accueil chaleureux, on était très peu de personnes, parce que le but était surtout de le recevoir dans l'intimité un peu, quoi, que ça soit calme,
oui.
Une fois. Et puis donc, je suis allé chercher à l'hélico avec un sidecar Indian, et puis déjà, bon, il a apprécié un peu de se retrouver un peu seul dans la nature comme ça, et puis après, il a visité le musée, on a passé un très bon moment, c'est un garçon qui est formidable.
Oui, il est sympa, Brad Pitt.
Ouais. Il connaît très très bien les motos, qui a une très grosse culture moto, et puis qui est charmant comme tout, quoi, qui est vraiment top.
Très bien,
bon moment, quoi.
Très bien, c'est impeccable. Bon, on va te laisser, on te souhaite de passer un bon dimanche.
Eh ben merci.
Et puis nous on va se retrouver au mois de mars hein, au salon de Pécancour hein, parce que je rappelle que c'est quand même toi qui organise, qui fait cette exposition de motos anciennes des mamies. Hein.
Oui, donc cette année, ma foi, on va relancer une nouvelle expo, on va amener des engins extraordinaires. C'est le centenaire de la marque Monégoyon, donc je vais amener des Colère Escoffier et des Monégoyon et raconter un peu l'histoire de ces deux marques.
Ça ne nous rajeunit pas tout ça, hein, 110 ans de triomphe, 100 ans de Monégoyon.
Mais oui. On fêtera nos 100 ans peut-être un
oui,
jour.
Peut-être aussi, oui. merci Jean-Louis d'avoir passé un peu de temps avec nous.
Allez, bonjour à tous les amis du Nord. À bientôt.
Bon dimanche.
Ouais,
au revoir.
Au revoir. Alors restez à l'écoute parce que on passe un morceau de musique, Guy, et on va enchaîner donc sur le Supercross, l'événement du mois de novembre.
En effet,
et avec des entrées à gagner.
Avec des entrées, en effet.
Voilà, mais il faudra répondre à une petite question.
Les
simples.
Enfin, pour les connaisseurs.
Donc soyez sur internet, branchés, voilà, allez. Musique, et après on se retrouve avec Guy. We'll be right back.
desert in a lonesome city cat coming from the cold. Well, I'm deep in action on a secret mission. Contacts broken down. Time drags by. I'm above suspicion. There's a voice in the telephone.
Du mois de novembre avec l'événement majeur dans la région, le Supercross de Lille. L'épreuve indoor la plus spectaculaire d'Europe qui va se dérouler les 12 et 13 novembre prochains avec Guy Pilarczyk.
En effet, donc c'est dans 13 jours exactement. Et on parlait de Triumph parce que Triumph fait aussi d'excellentes motos de cross. Et d'enduro, il y avait même Steve McQueen qui avait roulé sur une Triumph.
On a prévu d'en parler, mais je ne sais pas si on aura le temps.
Les frères Rickman, en effet.
Oui,
Des belles machines aussi, des cadres. Participe.
Donc, le 12 et le 13 novembre, troisième Supercross de Lille, 100% Supercross, 100% freestyle et 200%
chaud.
Chaud, voilà.
Chaud, ça va être chaud.
Oui. Alors, il y a eu une conférence de presse il y a 15 jours et dans un article d'un journal connu de la région.
Local,
dans les chiens écrasés, dans la rubrique chiens écrasés. On parle de 2017 où le Supercross se ferait sur une seule journée. Parce que le problème qui s'est posé, c'est que l'année passée, à la veille du Supercross, il y a eu le massacre du Bataclan. Ouais. Donc il fallait de la sécurité et ça a coûté un max d'argent. Et en plus, il y a à peu près 20 à 25% du public qui n'est pas venu. Hein. Donc l'idée est de faire sur une seule journée, mais sur toute la surface du terrain. Le seul problème, c'est qu'une partie est montée sur vérin et il faut ramener de la terre, de la bonne terre.
Il y a des tonnes de terre. Hein.
De tonnes de terre. Alors,
pas des pommes de terre, hein, des tonnes de terre.
ça tombe bien, il y a une carrière à côté.
Et cette terre, elle est toujours là, hein. Elle reste à côté.
Elle est toujours là. C'est de la bonne terre à betterave. Hein. On a vérifié. Oui.
Alors, c'est le samedi. Le samedi, le show va commencer à 19h et le dimanche à 15h. Et à cette occasion, comme chaque année maintenant, Kikaku offre, pas Kikaku, mais via les éditions La Rivière, nous offre des entrées gratuites à faire gagner. Mais il faut répondre à une question.
La question.
Parce que
c'est un peu que j'évite de pouvoir répondre, moi. Hein,
bon, c'est peut-être un peu trop facile. Le premier qui téléphone, il gagne. Hein, mais bon, il faut être un peu dans le milieu du cross. Je vais revenir un peu sur les pilotes, parce qu'il y a quand même certains pilotes. C'est un Français, Musca, qui avait gagné il y a une semaine, il a battu le pilote, le champion américain Dungey sur KTM, donc il faut déjà le faire. Et il y aura Romain Fèvre, il a été champion du monde l'année dernière, mais c'est pas un pilote sur ces pistes-là, parce qu'il y a des whoops, tout ça, bon, lui c'est pas son truc. L'année dernière, on a eu Livia Lancelot, si tu te rappelles, hein. Et au niveau américain, on a Justine Barcia qui avait l'année passée roulé sur Yam, maintenant sur Suzuki, mais bon, il y a un peu en retrait. Je sais pas s'il y avait des chutes. Malcolm Stewart, c'est un pilote de couleur, mais il y avait son frère, il s'appelait je sais plus.
C'est Stewart.
Ouais, voilà. Et après, il y a quand même pas mal de Français Arctic Sea, y a un Anglais, Tommy Searle, un Suisse, Arnaud Tonus, un Allemand, enfin bon, déjà, des bonnes poignées de gaz dans...
Donc ce sera un match entre Français et Américains, alors.
Français, voilà. Américains et reste du monde aussi. Et reste du monde.
Au cross des nations.
Alors, comme au cross des nations. Alors la formule 2015 des courses sera reconduite, à savoir demi-finale, repêchage, grande finale et une super pole, du spectacle pendant 4 heures. Alors on va offrir ces billets d'entrée.
Ces billets, oui, voilà. Alors, c'est pour le samedi ou le dimanche?
Pour le dimanche. Oui, pour le dimanche.
Voilà, dimanche, hein, à 15h. Si vous n'êtes pas allé le dimanche, c'est pas la peine de téléphoner.
Voilà. Alors, ces billets, c'est d'une valeur de 70,50 €. Hein.
Voilà, alors,
c'est quand même.
On voit que tu t'es. Tu t'es arraché, là. Hein, voilà.
Ouais. Mais bon, et c'est pas les places VIP, parce que là, oui. C'est.
Non, on peut pas.
150.
On n'a pas réussi, en fait.
Mais on a à boire et à manger. Hein. Alors, la question, voilà. Écoutez bien. Et un pilote français sera présent au motocross, au supercross de Lille. Il a été deux fois champion du monde en MX2 en 2009 et 2010. L'année dernière, il était champion des USA côte Est. Parce qu'il y avait côte Ouest, hein, mais le côte Est.
J'ai un doute. j'ai un doute.
En CX, en CX 250 en 2015. Alors, quel est son nom?
On va pas le dire. Bah non, faut téléphoner.
Donc ça, c'est la
question. Rappelle le numéro.
Alors, 0320-91-20. Ouais, c'est 2400. Dépêchez-vous, hein. Parce qu'il n'y a pas 3000 entrées. Mais aussi, je voudrais passer un petit message personnel. Parce que, Guy, c'est son anniversaire aujourd'hui. Guy, bon anniversaire.
Merci.
Et c'est quand même lui qui s'est frotté, donc, à l'organisateur pour avoir ses places. Alors, essayez. Si vous pouvez lui téléphoner aussi pour lui dire bon anniversaire, Guy, ce serait vraiment très sympa. Voilà.
Et ce matin, ma femme, elle dit t'as 69 ans.
Ah, t'as 69 ans.
Mais c'est 68.
Voilà. Alors, si vous pouviez donner un petit coucou au téléphone, et bon anniversaire. C'est bien, voilà. Allez, musique. Voilà, n'appelez plus pour les places sur le Supercross dans 15 jours, là, donc au stade Pierre Mauroy, c'est gagné. Oui, Luc, vas-y.
On a donc 4 gagnants. Je vous rappelle que le pilote, c'était Marvin Musquin. Et donc, c'est Philippe de Peranchy, Février Delhem, Maryse Desmarin et Victorien d'Armentière. On leur enverra les places. Bravo encore à ces participants.
Mais si vous êtes vraiment super sympa, cher auditeur, c'est l'anniversaire de Guy aujourd'hui. Et c'est comme lui qui a été allé chercher ses places. Donc, vous pouvez toujours nous téléphoner hein, au 03 20 91 400 pour lui souhaiter bon anniversaire. Voilà.
On va au studio.
Voilà, ouais. Ou vous venez au studio avec une petite boisson. Enfin, ouais. Voilà, voilà. Alexandre, on termine, on ferme le volet triomphe. Ouais. Triomphe en 83, ça, l'usine de Meriden ferme.
Effectivement.
Hein, c'est fini. Mais il y a un homme d'affaires qui a fait fortune dans l'immobilier, John Blore, qui va racheter donc le nom Triomphe.
Tout à fait.
Et aussi le site de Meriden.
Ouais, tout à fait. Donc effectivement, la marque a envoyé plus de 70 000 motos dans les armées britanniques, américaines. Il faut savoir que dans les années 60, 80% de la production anglaise part aux States. Ce qui fait mal à d'autres marques qu'on a citées tout à l'heure, d'autres marques de moto. Les Américains deviennent fada. Les stars de l'époque, Bob Dylan, on a parlé de Steve McQueen, Marlon Brando, prennent ces motos beaucoup plus maniables, rapides, beaucoup moins chères, beaucoup plus fiables. Effectivement, mais en 83, après des grèves, après un incendie également qui a eu lieu dans l'usine, des choses comme ça, enfin quelques difficultés, et puis la concurrence qui fait mal. Il faut le dire aussi, les Japonais à cette époque-là arrivent très très fort, la fourre elle fait très très mal aux productions américaines
c'est pour ça qu'en 83 ils avaient sorti la TSS qui était censée essayer de concurrencer
mais la production continue mais manuellement on va dire à la manière d'artisanat. Il y a quelques bonnes villes qui sont encore faites par des ingénieurs et toute une équipe, donc l'usine ferme mais John Blore rachète, donc le Triomphe n'a pas un pied dans la tombe, au contraire. Et puis en 90 la production est réellement relancée. Alors les trois premiers modèles de mémoire, c'est Daytona, Trident et Trophy. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, donc des noms anciens qui reviennent. Et en 94,
des 3 cylindres et
les 4 cylindres qui deviennent des 3 cylindres beaucoup plus.
Par contre, le 4 cylindres sera abandonné en fait.
Sera abandonné tout à fait. Au départ, Triomphe fait des 4 cylindres au début des années 90 et après les met très vite en stand-by avec la sortie du 3 qui est vu unanimement comme un super moteur à l'époque. Et en 94,
qui a donné la Speed d'ailleurs.
Voilà, effectivement, le renouveau. Alors on parle de la bonne ville, mais le gros mythe également chez nous, c'est le Speed Triple, production de motos inarrêtée depuis 1994. Et là, aujourd'hui, c'est pour ça que la Bonneville T120, c'est le premier modèle ressorti en numéro 4. Et quand vous regardez le deuxième modèle, c'était la Speed Triple. Donc quand je vous dis que c'est un renouveau, que John Blore met des motos un petit peu de côté, en stand-by, touille un petit peu son café pour boire encore un meilleur deuxième coup derrière. Faut pas être surpris si bientôt on va pas avoir des belles roquettes qui vont arriver ou d'autres belles motos quoi. Faut pas.
Et puis à l'époque c'était Kawasaki qui avait sorti son W650 là, qui ressemblait fort à une bonne
anglaise.
À une anglaise avec un kick en plus.
Normal.
C'était le premier, et donc là Triomphe était un peu à la traîne quand même.
Ouais, c'est sûr. Hein, on n'a pas tout le temps non plus connu une heure de gloire. Hein. La marque a aussi eu des difficultés. On l'a dit. Il y a eu les guerres, il y a eu des incendies, il y a eu des grèves, etc. Mais quoi qu'il en soit, à l'heure d'aujourd'hui, elle repart, elle rebondit, elle réinvestit son passé pour repartir de plus belle et pour continuer. C'est pas repartir, c'est pour continuer, quoi.
Bon, et on va terminer avec Triomphe. Par contre, ça, c'est l'actu, c'est Guy Martin hein, qui devait battre le record du monde de vitesse encore sur le lac de Bonneville.
Guy Martin.
Martin, oui, mais moi je suis. Voilà, et avec deux moteurs de Rocket 3, turbo compressé, 1000 chevaux. Il y a eu des petits problèmes, il lui manque 164 km/h pour battre le record. Dans cette catégorie, hein, parce qu'il y a des catégories à Bonneville.
Les records, c'est aussi partie de l'histoire de Triomphe. Hein. En 1908, Triomphe, c'est la moto la plus rapide du monde. En 1908, un 500 cm3, on a parlé des frères Rickman. Il y a une Thunderbird à Montlhéry dans les années 50 qui était venue battre des records également, le record de tour. Et les gars étaient descendus de l'usine à Montlhéry, deux ouvriers, et étaient remontés à l'usine avec les motos à l'époque. On a parlé du record de Bonneville. En 58, Triomphe gagne le Boulder. faut le rappeler au cas où, ça on l'oublie souvent, Daytona en 62, et là, ben voilà, donc les Truxton en 69, donc encore une fois, l'histoire qui se répète, une grosse base historique, et là, Guy Martin qui effectivement n'ont pas réussi, puis je crois qu'ils n'ont pas chuté, je pense qu'il y a eu un accident, hein. Le pilote à côté de nous pourrait le dire,
Il y a eu une chute, ouais, pour Guy Martin.
Ouais, effectivement, mais je crois qu'ils ont déjà signé pour l'année prochaine. Hein.
Mais je crois que c'est reparti, ouais, pour l'année prochaine.
Ah, ça, ils vont préparer.
Il y a un problème moteur, et la moto s'est couchée, donc il y a sans casse.
Petite correction, c'était la bonne ville. Le mythe, la bonne ville, hein, encore sur le lac de Bonneville, c'est 310 km/h. Hein. C'était en 56 et pas en 55.
Le 6 septembre, 342 voilà, km/h.
Alors, on parle de compétition. Peut-être qu'on va revoir un jour Triomphe en compétition majeure. Enfin, je sais pas, moi. En MotoGP ou en endurance peut-être. Pourquoi
on peut l'espérer, hein, tout à fait, on peut l'espérer. Je ne suis pas persuadé que ce soit dans les cartons à l'heure d'aujourd'hui, mais ils nous ont tellement habitués à la surprise là, depuis quelques années que ouais, pourquoi pas. Bah. Après, plus attaché historiquement à des records, à des vrais records comme le cigare, mais ouais, pourquoi pas, après tout.
En compétition, ils y ont été quand même en super sport avec la Daytona, qui est une très bonne moto en plus. Hein.
Ouais, tout à fait.
Très bien, bah, bonne route à Triomphe.
Merci.
On passe à un morceau de musique et après on va se retrouver avec Stéphane.
You're my head.
Stéphane, c'est pour toi ça.
Ouais, voilà, on change de sujet. Notre invité de cette émission, c'est Stéphane Paulus, qui a perdu l'usage de ses jambes, malheureusement, en 2003, dans un accident de moto. 7 ans plus tard, le temps de se reconstruire, Stéphane est remonté en selle. Au mois de juin, il a pris le départ du premier championnat de France handisport de moto, qu'il a lui-même co-organisé. On voudrait revenir un petit peu sur le fait que quand il t'arrive un truc comme ça, comment ça va dans la tête?
En 2003, j'avais 21 ans. Donc, c'est des épreuves dans la vie qui ont été dures à vivre. Il a fallu rebondir, se reconstruire. C'est une renaissance. Tu repars à quatre pattes. La paraplégie, c'est quand même un handicap qui est assez lourd quand même dans le quotidien. Tu vis dans un fauteuil roulant 24/24 et faut rebondir, faut aller de l'avant. Donc moi, il y a eu des priorités, c'était reconstruire ma vie personnelle et professionnelle. Mais au fond de moi, il y avait toujours la passion de la moto qui était là. Les premières années, ça a été j'avais envie de remettre un casque, donc ça a été le quad, la solution la plus facile et à quatre roues. Donc je suis reparti en quad de 2006 à 2010 et je suis retombé un petit peu dans ma passion de départ et d'avant l'accident, c'était le stunt, l'acrobatie moto. J'ai Nicolas Sonina, qui est un organisateur d'événements, qui à l'époque faisait le stunt bike show, qui m'a invité sur un événement, et j'avais mon quad et je suis reparti à faire des roues arrière, des burns, du deux roues, enfin tout ce que j'aimais, et de fil en aiguille, voilà, je suis retombé dedans et ça m'a donné en fait une force supplémentaire, et j'ai toujours survolé le handicap, je me suis jamais vraiment senti handicapé. Parce que j'ai reconstruit ma vie, j'ai une vie de famille, une vie professionnelle, j'ai mon loisir, mes passions. Ça a été très très important dans la reconstruction. Et en 2010, j'ai eu l'opportunité de remonter sur une moto qui n'était pas du tout adaptée à mon handicap pour un DVD qui s'appelait le French Stunt Tour. C'était l'état des lieux du stunt en France. Je suis remonté sur un GSX R1000, la moto avec laquelle j'avais eu l'accident. J'étais sur le deuxième rapport, sur une grande ligne droite, c'est des motos qui tirent long, donc je suis reparti en roue arrière comme avant. Quand ma femme m'a vu descendre de la moto, elle m'a connu après l'accident. Hein. Quand je lui ai expliqué mon souhait de refaire de la moto, elle m'avait dit « T'es fou toi, t'es en fauteuil roulant et tu veux remonter sur une moto ». Et puis en fait, quand elle m'a vu descendre de la moto avec le sourire accroché aux oreilles, elle m'a dit « Écoute, c'est ça ta passion, vas-y ». Et quand j'ai eu son feu vert, j'ai racheté une moto que j'ai adaptée à mon handicap. Donc moi, je ne peux plus passer les vitesses avec le pied, je ne peux plus freiner avec le pied et je peux me servir de mes bras. Comme on dit, pas de bras, pas de chocolat. Donc là, pour le coup...
Allez, dévisez.
Pas de là, pied, mais une moto.
Voilà. Et donc, du coup, il a fallu adapter ma moto à mon handicap, donc en mettant un shifter pour passer les vitesses. Donc, ça permet de monter et descendre le sélecteur. Et on actionne ça avec le pouce. Et le frein arrière, pareil, le remonter au guidon. Et après, il fallait, dans un premier temps, trouver une solution pour stabiliser la moto à l'arrêt. Donc avec deux copains, en 2010, j'ai racheté un GSX R1000 accidenté qu'on a remonté et on a fabriqué un système de béquille centrale commandé par un vérin électrique avec deux petites roulettes. Et j'ai roulé.
C'est ça le problème, c'est quand tu t'arrêtes, il faut bien que tu aies l'équilibre.
On
met les jambes.
Avec ce système de béquille centrale commandé par un vérin électrique, j'ai roulé 6 mois sur la route. Sauf que je m'étais pas calmé. Et quand je suis rentré des 24 heures du Mans, j'étais jusqu'au Mans quand même. Il y a toujours une voiture quand on part avec les potes au Mans. J'ai mis mon fauteuil roulant dans une voiture, j'avais fait la route avec les copains.
Ça doit quand même être stressant quand même.
Faut pas qu'il y ait.
Imagine que le système de béquille ne marche
voilà.
pas.
Faut pas qu'il y ait une embûche, faut pas une panne d'essence, voilà. Donc c'était quand même risqué ce que j'ai fait et j'ai revalidé mon permis comme ça quand même. Moi, je remercie l'inspecteur d'ailleurs à l'époque qui m'a fait confiance et qui m'a redonné mon permis moto. Mais bon voilà, quand même il y a beaucoup trop de risques. Et en fin 2011, ma femme était enceinte et j'ai souhaité arrêter la moto parce que je m'étais pas calmé et je prenais vraiment trop de risques. Et c'est là que j'ai essayé le circuit. Donc je me suis rendu un samedi au circuit Carole et je dis je vais essayer la piste. Si ça me plaît, je continuerai, mais si j'y arrive pas, j'arrêterai la moto. Mais c'est pas l'handicap qui m'aurait fait arrêter, ça aurait été un choix de ma part. Et ça a été tout l'inverse qui s'est passé, ça m'a plu, et voilà, aujourd'hui, on en est là. Les premières années, donc 2011-2012, je roule avec les Valides. Je fais une année avec la Monster Race, les pilotes de la Monster Race. Donc c'est des motos dépourvues de carénage, c'est des sportives, mais dépourvues de carénage. Et une saison qui s'est super bien passée. D'ailleurs, à l'époque, c'était Antoine Collignon qui a mis ça en place, la Monster Race, et qui malheureusement est décédé sur une épreuve du Vigan. en 2012. Et donc ça m'a mis un calme. Je dis mince, je me mets à la piste. Et puis l'organisateur, se tue en course. Donc tu te dis mince, qu'est-ce que je continue ou je continue pas. Et puis bon, j'ai quand même ça au fond de moi, j'aime ça. Et puis j'ai continué. 2013, j'ai rencontré des soucis après sur au niveau de la licence. Donc je voulais que les valides, mais la Fédération française de motocyclisme ne m'a pas reconduit ma licence en 2013 parce qu'il s'est passé une problématique. C'est en cas de chute avec un valide, il pouvait se retourner contre moi au civil en disant qu'à cause de l'handicap, je l'ai fait chuter. Et là, on aurait mis tout le monde dans le panneau, la fédération et moi-même, et ça aurait pris des tournures plutôt dramatiques. Donc ça a été compliqué 2013-2014 parce que je roulais juste en entraînement, j'avais pas de budget. Moi, j'ai eu un accident à l'époque en 2003, j'étais en retrait de permis, donc j'ai pas été couvert par les assurances à l'époque.
Ah oui.
Donc quand j'ai fait les choses
à l'envers.
J'ai mal démarré dans le monde de la moto, vraiment très très mal. Mais bon, ça permet aussi je suis content, je suis passé peut-être par là, c'était des épreuves très difficiles mais qui m'amènent là aujourd'hui et quelque part que j'assume entièrement, on fait le con à 20 ans.
Et comment t'es arrivé au handisport alors?
Et comment je suis arrivé au handisport? Donc 2014, je rencontre donc moi je suis visiteur médical de métier, donc dans un centre de rééducation, je rencontre un jeune qui vient d'avoir un accident de moto et qui me dit: Stéphane, j'ai vu tes vidéos sur YouTube, j'ai envie de faire moi aussi de la moto. Et je lui explique que ça reste compliqué dans les démarches et que la fédération derrière, on pourra pas faire de course, on pourra rien faire. Donc la seule solution, c'était de créer une association. Donc avec Kevin, on a créé Andy Freerider. Donc c'est une association qui est dédiée aux motards qui ont un accident de la vie, qui se retrouvent avec un handicap. Et le but, c'était de les remettre en selle. Donc on a une Suzuki 750 GSR qui est adaptée pour les paraplégiques. Et donc je la mets à disposition sur une journée, on les forme. Et puis ça leur donne, soit ils veulent passer le cap, ils achètent leur propre moto. Le but, c'est pas de les rendre dépendants, c'est qu'ils reprennent leur autonomie, qu'ils reprennent la moto. Donc 2014, on crée cette association. Moi, 2015, je suis contacté par l'association Diver Salmon Disability. Donc c'est les Italiens. Et qui ont créé la première course internationale en e-sport. Et donc je suis parti rouler en Italie. Alors là, grand moment parce que je suis pas un grand pilote. Enfin, c'était quand même une super expérience. Fallait s'organiser, monter une structure, trouver les potes qui étaient prêts à partir là-bas.
Chargement, du matériel.
Voilà, le transport, trouver des sponsors parce qu'il fallait du budget pour le coup. Et puis c'est la course avant la course. Et moi, c'est ce que j'aime dans la vie, quoi. C'est l'adrénaline. Et du coup, on est parti en Italie sur le circuit de Vallelunga, participer avec cette course. Et donc là-bas, je suis reparti avec le titre en catégorie paraplégique et un titre en catégorie 1000 cm3, plus de 30 ans. Ça a été une super année 2015. Je suis parti à Portimao faire les 300 km Luis Carrera, donc c'est une endurance qui était faite pas que pour les valides, et j'étais le seul paraplégique. Donc parmi 44 valides et avec mon coéquipier, on finit 3e sur le podium. Donc ce qui était génial, quoi. Et en fin d'année dernière, je suis revenu voir la fédération en leur expliquant ma volonté. D'accord, on ne peut pas rouler avec les valides, mais il va falloir qu'on fasse quelque chose pour les handis. Et là, ils m'ont dit banco, ils ont eu une vraie volonté de me suivre sur ce projet-là, de créer. Donc cette année, c'était des épreuves, c'était pas un championnat cette année. C'était des épreuves handisport pour voir comment ça allait se passer. Et l'association a grandi, on a eu pas mal de pilotes du coup qui ont voulu nous rejoindre. Donc on a des paras, des amputés membres inférieurs, des amputés membres supérieurs. Et donc première épreuve en juin. Qui s'appelle la PMR Cup Pilote à mobilité réduite. On a Bridgestone qui est notre sponsor principal pour créer ces événements. Donc ça a été génial de voir ça, un paddock rempli de sourires malgré l'handicap. Au final, on voyait même plus l'handicap. Ça a été des vraies valeurs, une vraie cohésion entre handi et valide aussi. C'est au final, quand on part sur un circuit, on est tous avec des copains en train de s'aider, s'entraider. Et l'handicap, on ne voit plus l'handicap parce qu'on a finalement besoin plus des uns et des autres. On a aussi ce partage qui se fait, que la vision qu'on peut avoir du handicap, finalement, c'est peut-être pas la bonne qu'on s'en fait quand on vit parmi des gens qui ont un handicap. Donc c'est aussi ça, cette volonté. Hein. L'handicap, c'est pas une tare, on n'est pas plus forcément bon à rien. Au contraire, il y a un échange qui se fait. Et c'était important pour moi de faire ça. Donc ces premières épreuves qui ont été faites cette année. Et une épreuve italienne.
Très bien. Stéphane, on va passer un morceau de musique, parce que tu sais qu'on a
tout à fait.
Un formatage. Hein, on doit parler 5 minutes, et là, ça fait 10 minutes que tu parles.
C'est vrai.
Bah oui, voilà.
On l'écouterait pendant des heures.
Voilà. Voilà. Et puis on va dire aux auditrices, arrêtez d'appeler pour de souhaiter bon anniversaire à Guy. C'est sa femme qui va être jalouse. Voilà, donc arrêtez, le téléphone n'arrête pas de sonner. Voilà. Bon, très bien. Allez, musique. Stéphane, j'aimerais savoir un peu comment ça se passe, un départ de course pour Handisport. On peut pas te arrêter. Ou alors un système de béquilles, comme tu nous expliquais tout à l'heure. Mais voilà, je pense que sur les motos de course,
c'était la problématique que j'ai rencontrée, moi, parmi les valides. Du coup, je partais dernier à l'époque. Hein, même si je faisais deux ou trois en qualification, je partais dernier. Donc, du coup, quand on a créé ces épreuves-là, la seule solution qu'on a eue, c'était de faire un départ lancé. Donc du coup, le samedi, il y a les qualifications qui sont faites et on fait donc on tour de chauffe et tour de warm-up. Chaque pilote reprend sa position qu'il a obtenue lors des qualifications, donc du premier au dernier. On se suit avec interdiction de se doubler. Et lorsqu'on passe le drapeau tricolore, le départ est donné et parti pour 10 ou 15 tours en fonction des circuits.
D'accord. Donc il va y avoir une évolution là en 2017 parce que là c'était une première. Hein.
Voilà,
bah, la Fédé. Il n'y avait pas de classement au point.
Voilà, cette année il n'y a pas eu de classement au point. Il y avait un classement par course, mais il n'y a pas eu de classement sur l'année, sur les trois épreuves qu'on a effectuées. Voilà, la fédération déjà, c'est une volonté de nous suivre. Donc ils ont regardé ça d'un œil attentif. Aujourd'hui ils sont enchantés des courses, des épreuves qu'il y a eu cette année. Donc l'année prochaine, c'est une nouveauté, c'est qu'on va passer en Coupe de France. Donc là vraiment avec le soutien de la fédération française, ouais. Donc là ça va être des vraies courses avec un vrai avec des points,
avec des coupes,
voilà, des coupes,
un podium.
On a eu des podiums, on a eu des coupes, tout ça cette année, mais sauf qu'il n'y avait pas de classement officiel sur la saison complète. Donc l'année prochaine, voilà, pour Coupe de France, si vous voulez, il y a Trophée de France, Coupe de France et Championnat de France. Donc déjà, on a sauté une étape, celle des trophées, donc on va passer en Coupe de France.
Ça fait combien d'épreuves?
On va faire 3 épreuves françaises et 2 internationales.
D'accord. Et donc tout ça avec le soutien de la fédération.
La fédération, Bridgestone, c'est vraiment le soutien officiel qu'on a pour réaliser nos épreuves. Moi, j'ai un grand rêve au fond de moi. Ça serait d'avoir une épreuve sur le Grand Prix de France au Mans. Donc
ça serait bien ça.
Ça reste
juste avant le Grand Prix de France.
Ça reste un rêve, mais
on croise les doigts.
On fait tout pour, voilà.
Imagine que t'as Valentino Rossi qui vient de te serrer la main.
Ça serait
Zarco, notre champion du monde.
Alors moi,
on rappelle un petit peu quand même, faut le dire. Hein. Autre fois qu'on est un champion du monde en bécane, de toute façon, il y a qu'ici qu'on va le dire. Vous pouvez écouter toutes les radios que vous voulez ou les télés, on n'en parlera pas du champion du monde français en moto.
Si, quand il y a un champion du monde, ils le disent.
Ah oui, ils le disent. Oui, d'accord.
J'ai quand même
je voulais savoir où.
Eu la chance de faire le spectacle l'année dernière, parce que je fais aussi encore de l'acrobatie moto un petit peu, malgré
le handicap. Ouais. Ah oui.
J'ai fait l'ouverture du GP de France et quand tu vis ça devant 60 000 personnes, ça a été un grand, grand, grand moment.
Ah ouais, je suppose que ça te fait monter l'adrénaline.
Ah, ça a été faire des roues arrière dans la ligne droite des stands avec 60 000 personnes qui applaudissent, c'était grandiose, c'était des grands moments. Ouais.
Et donc ces courses en e-sport, ça existait avant en Italie, en Espagne, c'est déjà des championnats qui existent.
Non, les premiers, ça a été les Italiens qui ont mis ça en place en 2014. Et du coup, moi, j'ai suivi dans la foulée, là, 2016.
Donc, il faut de l'argent aussi pour organiser ces courses.
C'est un gros
sponsor.
Voilà, ouais. Bah, heureusement qu'on a eu Bridgestone cette année qui nous a aidé pour organiser ces épreuves, parce que pour chaque pilote, du coup, maintenant, tous les pilotes, c'est génial pour tous les pilotes qui nous ont rejoints. Tout le monde est à la recherche de budget, de sponsors. Donc, il y a les équipementiers qui nous suivent. Moi, en tant que pilote, je suis pareil, tout le temps à la recherche des sponsors, de budget pour participer aux courses.
Et puis, avoir un budget à un sponsor, il faut que ce soit médiatisé.
Voilà.
Et le problème, il est là, c'est que...
Alors, la chance quand même qu'on a et la chance que j'ai eue, c'est que moi, j'ai été le premier à être arrivé. Donc, du coup, ça... Dans le monde de la moto, ça a été bien perçu quand même parmi les motards, parmi les médias. La presse spécialisée m'ont quand même bien mis en avant. Donc ça, je les remercie vraiment tous. Trouver des partenaires dans tout ce qui est accessoires, les huiles, tout ça, ça reste encore facile. C'est vrai que le plus dur, ça va être vraiment d'avoir du budget. Et ça, c'est ce qui est vraiment très compliqué aujourd'hui. Mais voilà, on y travaille, on avance bien. La PMR Cup prend de l'avance, tous les pilotes font leur book, se sont investis vraiment, je suis vraiment très fier d'eux parce que on a un très beau plateau de pilotes, de paraplégiques, ils ont des belles motos, bien décorées, des super tenues, c'est beau aussi à voir.
Il y a des triomphes ?
Il y a deux triomphes, on a deux Daytona, on a deux pilotes qui roulent sur des Daytona. Ouais.
Très bien. Est-ce qu'il y a un site internet où on peut aller voir un peu tout ce que vous faites, les photos, et puis prendre rendez-vous, les dates pour 2017 hein.
Voilà, on est en train de préparer le calendrier là, qui va être annoncé au mois de décembre. On a un site internet qui est team-6hfr.com. Et une page Facebook Andy Freerider, donc HANDIFR2ERIDERS, voilà Andy Freerider.
C'est l'association, c'est ça?
C'est l'association.
C'est pas uniquement pour faire que de la piste, c'est non. Tous les motards qui sont handicapés.
Voilà, c'est tous les motards. Alors, le règlement va quand même se resserrer un petit peu l'année prochaine pour la course, pour les entraînements, non, mais pour la course, ça sera dédié uniquement aux amputés membres supérieurs, amputés membres inférieurs et paraplégiques. Voilà, parce qu'il y a pas mal de pilotes qui m'ont contacté, mais avec des handicaps plus ou moins légers, mais la fédération ne les interdit pas de rouler parmi les valides. Les seuls qui sont interdits de rouler parmi les valides, c'est ceux qui ne peuvent pas tenir leur moto à l'arrêt. Donc c'est vrai pour ça que ce championnat va aller de l'avant et dans ce sens-là, voilà, pour que ça, soit, ça reste loyal aussi pour tout le monde. Quoi.
Mais l'association accueille aussi des personnes qui souhaiteraient reprendre la moto après
tout
un accident.
Tout, voilà, tout au exemple, long quoi. De l'année, on organise, j'organise un planning de roulage sur les différents circuits de France avec trois partenaires, First on Track, le Motoclub Véro et le MNRT. La piste pour tous, qui vraiment sont des organisateurs de roulage qui vraiment veulent aussi aller de l'avant. Donc du coup, on peut rouler parmi les valides, on remet les pilotes en selle et ils mettent tout en place pour qu'on roule dans les meilleures conditions. Ça, c'est vraiment agréable.
Très bien, merci Stéphane.
Merci Stéphane, bravo.
La poche, hein.
Bravo. La pêche.
merci à vous et merci à toutes les
Par contre, s'il y avait un mécène qui nous écoutait, il pourrait mettre la main à la poche. Voilà, il n'y a pas de problème.
Oui, c'est toujours à la recherche de sponsors.
Comme tu dis, Luc. Pour terminer, on va revenir un petit peu sur Triomphe. Alors, bien sûr, la grande évasion avec Cyber Queen.
Ouais, tout à fait.
Une petite histoire là-dessus, là.
Sur la grande évasion, ouais, la petite, l'histoire.
Alors, vite fait, hein, il reste 2 minutes.
Rapidement, en fait, il n'y avait pas de marque de moto et surtout d'assureur qui voulait prêter de moto à Steve pour le film. Donc, pour la petite histoire, il a pris sa moto à lui. Ils ont peint en vert parce que c'était les motos allemandes. Et en fait, c'est ça qui est rigolo. C'est que
c'est une erreur. Il y a un bug dans le film.
C'est une Triomphe.
Effectivement. Et donc, en fait, Steve fait les cascades avec sa propre moto. Ça, c'est la petite histoire. Il y a plein d'anecdotes comme ça. Passez à la concession, je vous en raconterai plein d'autres.
Ouais, très bien, ouais, bien joué. Bon, Luc, on termine, là, il reste 3 minutes.
Une info motoclub
qu'on a dans
le calendrier. Hein, voilà, donc c'est la, pour rester sur le sujet, c'est la soirée Triomphe Légende le 2 décembre, le vendredi soir, où on a donc, en partenariat avec Légende Motors, c'est les amis de la moto qui vont exposer des motos anciennes.
Très bien, voilà, l'émission se termine. Stéphane, continue, hein, là c'est la pêche hein, quand même.
Bah, merci, et puis au plaisir de se revoir.
Voilà. Au plaisir.
Donc on retrouve Alexandre là où vous savez. Merci Luc, alors cette 1200 finalement bien.
J'aime beaucoup
le moteur. Tu dois donner une note un peu donc, sur ce 1200 T120.
J'aime beaucoup le moteur. Ouais. Donc tout à l'heure je disais la finition qui est vraiment très très bien faite mais aussi le moteur le calé à 260 degrés bon. Franchement un moteur vivant quoi, où on retrouve l'âme de la bonne ville de 1950.
Ah d'accord, très bien, voilà. Bon, il n'y a pas autre chose.
Je sais pas, c'est une moto, j'aime beaucoup astiquer les chromes, donc d'accord. Moi j'aime beaucoup
les
j'aime
chromes beaucoup. Ah oui, mais ça, il y a beaucoup de chromes. il faut du temps. Très bien, merci d'être passé dans les studios de Radio Campus, d'être venu à 11h aujourd'hui et puis parce qu'il faut savoir se lever aussi hein. Et puis alors Alexandre, j'espère que ça va aller pour les bleus hein, que tu as.
Pas de soucis.
Merci Laurent pour ce programme musical.
Pas de soucis.
Et à dimanche prochain.
Salut.